écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, 22h ici à Paris, 20h temps universel, l'heure d'un nouveau journal.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, le calme revenu en Bolivie au lendemain d'un coup d'État avorté. 17 personnes arrêtées, accusées d'être en lien avec cette tentative. Comme un air de déjà-vu, Joe Biden et Donald Trump face à face après des mois d'invectives, l'heure de la confrontation a sonné. Ils se retrouvent ce jeudi soir pour le premier débat de la présidentielle américaine. Au sommaire également, J-3 avant le premier tour des élections législatives en France. La Malaisie qui démantèle un réseau international d'importation de déchets. Et puis soirée exceptionnelle sur RFI juste après ce journal. Dans 10 minutes, vous retrouvez le concert de la rappeuse congolaise Jessie B, lauréate du prix RFI Découverte. Concert enregistré il y a 2 semaines à Brazzaville.
RFI.
Le jour d'après la tentative de coup d'État en Bolivie, c'est la capitale, La Paz, qui a été le lieu de cette tentative hier après-midi. Des militaires accompagnés de chars ont occupé la place Murillo où se trouve le Parlement et le siège du gouvernement. Au bout de quelques heures, ils sont finalement rentrés dans leurs unités. Le gouvernement bolivien qui annonce que 17 personnes ont été arrêtées, dont des militaires en activité, des retraités et plusieurs civils. Tous sont soupçonnés d'être en lien précisément avec cette tentative de coup d'État. Nils Sabin, vous êtes notre correspondant à La Paz et quelle est la situation à l'heure où l'on se parle ?
Eh bien, la situation est revenue à la normale dès hier soir. On peut circuler sans aucun souci sur la place Murillo qu'occupaient les militaires hier après-midi. Et pour quelqu'un qui arriverait aujourd'hui à La Paz, il serait presque impossible de deviner qu'il y a une tentative de coup d'État il y a moins de 24 heures. Hier soir, le meneur des militaires rebelles, Juan José Zuniga, a été rapidement arrêté, tout comme un vice-amiral, lui aussi accusé d'avoir organisé la tentative de coup d'État. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'une dizaine de militaires avaient été arrêtés, que l'on compte 12 blessés par balle et que les accusés risquent jusqu'à 30 ans de prison. Aujourd'hui, tout le monde essaye de comprendre quelles ont été les motivations des militaires. Les déclarations de Juan José Zuniga lors de son arrestation ont également jeté le doute sur les événements. Celui-ci a déclaré que c'était le président Luis Arce lui-même qui lui avait demandé d'organiser la prise de la place Murillo par les militaires. Selon lui, le président aurait fait cette demande aux militaires pour tenter de redorer son image. Une accusation qui a été niée par le ministre de l'Intérieur. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Et cette tentative de coup d'État a été condamnée par de nombreux pays, notamment la Russie, tout comme plusieurs pays européens, dont la France, qui apporte son soutien au gouvernement en place. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne, justement, qui sont réunis à Bruxelles ce jeudi, avec ces questions, quelles priorités pour le vieux continent, pour les 5 ans à venir, et surtout qui pour les mener à bien ? Voilà les réponses à trouver pour ces dirigeants et cet enjeu, donc, la répartition des postes clés aux institutions, à savoir la Commission européenne ou encore le Conseil européen. Mais c'est très délicat puisque les dirigeants italiens et hongrois s'estiment lésés, ce qui ne passe pas notamment. C'est la reconduction d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. La campagne pour l'élection présidentielle commence officiellement ce soir. Aux États-Unis, et ce qui marque le top départ de cette campagne, c'est le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Moment très important dans la vie politique américaine. Débat qui a lieu dans les studios de la chaîne américaine CNN à Atlanta, c'est dans le sud-est du pays. Pour le débat, plusieurs règles, pas de public dans la salle pour éviter les potentielles réactions comme les applaudissements ou encore les huées. Les micros, eux, seront coupés lorsque ce n'est pas au tour du candidat de parler pour éviter qu'il ne se coupe la parole. Et ce sera Donald Trump qui aura le mot de la fin. Décision prise grâce à un pile ou face. Les deux candidats qui espèrent donc convaincre les indécis alors que les sondages sont très serrés. Mais entre l'âge des candidats, la polarisation de la politique et la lassitude des électeurs, beaucoup n'attendent finalement rien de ce débat. Reportage dans la banlieue d'Atlanta, dans la ville de Sugar Hill. Reportage signé Edouard Maille.
Rick German a toujours regardé les débats présidentiels à la télé, y compris le premier de l'histoire du pays entre Kennedy et Nixon. Mais depuis quelques années, ça ne l'intéresse plus.
C'est très écrit, c'est très prévisible. Au lieu de parler des vrais sujets, tout devient très politique, très personnel. Il n'y a rien qui en sort, c'est une perte de temps.
Diana, 41 ans, va voter pour Donald Trump. Elle va regarder le débat, mais s'attend à un spectacle de cirque plus qu'une discussion politique.
Quand vous mettez ensemble Trump avec Biden, c'est sûr que leurs propos n'auront pas de sens et qu'il y aura des attaques. C'est assez immature et c'est chaotique et dingue quand les deux se retrouvent.
De son côté, Pat Folsom, une démocrate, veut voir Joe Biden se défendre malgré ses nombreuses erreurs pendant ses prises de parole.
Parfois, il dit des choses décalées, mais il est excellent en débat. Et vous savez, Trump est juste une brute. Il va être bruyant et odieux. C'est presque un divertissement avec lui.
De nombreux électeurs regrettent tout de même le manque de choix politique entre Donald Trump et Joe Biden. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
La situation au Proche-Orient, la France, qui se dit extrêmement préoccupée à la frontière entre le Liban et Israël, où les violences s'intensifient. Sur le front sud de l'État hébreu, dans la bande de Gaza, au moins 5 personnes sont mortes ce lundi dans des bombardements de l'armée israélienne. Et c'est dans ce contexte que 21 malades atteints de cancer ont été évacués de l'enclave palestinienne ce jeudi vers l'Égypte. 22h et pratiquement 6 minutes ici à Paris. On en vient à la politique en France. La campagne pour les élections législatives qui se poursuit. Le premier tour est dans 3 jours. Maintenant, ce sera dimanche. Les candidats ont donc jusqu'à demain soir, vendredi, pour faire campagne avec un focus dans ce journal sur le parti Les Républicains, le parti de droite englué dans une campagne très difficile et profondément divisée par l'alliance scellée entre le président Éric Ciotti et le Rassemblement National. Alors, est-ce que le parti Les Républicains est-il d'ores et déjà mort ? Non, veut croire Gérard Larcher, le président du Sénat. Un dernier bastion LR montre au créneau dans le journal Le Parisien ce jeudi. Il tente de défendre une autre voie entre les extrêmes et surtout Emmanuel Macron qu'il ne ménage pas, Raphaël Delvolvé.
Si on voulait démentir un rapprochement entre le patron du Sénat et le président de la République, on ne s'y prendrait pas mieux. Le président ratatine la démocratie, il interprète personnellement la Constitution, assène le troisième personnage de l'État. Gérard Larcher se montre extrêmement critique de la dissolution et semble ne pas avoir digéré la façon dont ça s'est passé. Il raconte avoir été prévenu lors d'un bref coup de téléphone d'une minute trente le soir des européennes. Il somme maintenant le président d'imaginer la sortie d'une crise qu'il a lui-même provoqué. Gérard Larcher le confesse également, la situation est plus dure que d'habitude pour LR. Il se sent trahi par Éric Ciotti, parti rejoindre le Rassemblement National, et demande désormais de jouer collectif lorsqu'on l'interroge sur la prise de distance hier d'Aurélien Pradier. Après ces législatives potentiellement catastrophiques pour le parti Les Républicains, Gérard Larcher le sait, il sera l'un des hommes forts de la droite, ou ce qu'il en reste. Sa chambre, le Sénat, dominé par LR, va jouer un rôle très important, quel que soit le visage de la future Assemblée nationale. LR est en état de mort cérébrale, mais quelques membres bougent encore.
Le décryptage de Raphaël Delvolvé pour RFI. On revient plus en longueur sur l'actualité politique en France. À 22h, temps universel de moins de 2h, dans 24h en France. On se penche à présent sur une activité criminelle très juteuse, le trafic international de déchets. Avec l'Afrique, l'Asie du Sud-Est est l'une des destinations de ces cargaisons clandestines de déchets, notamment électroniques. Comme en Malaisie par exemple, puisque les autorités ont saisi une centaine de conteneurs ces 3 derniers mois et ils ont démantelé un réseau d'importation illégale de ce type de déchets, Lucie Gimbert.
Restes de machines à laver, vieux composants d'ordinateurs ou résidus de téléphones portables. En 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites dans le monde, selon les Nations Unies, et moins d'un quart a été recyclé. Des déchets dangereux pour la santé et pour l'environnement, car ils peuvent contenir des métaux lourds et des produits chimiques. Ils viennent principalement des pays développés qui les envoient vers les pays pauvres pour les faire traiter à moindre coût. Devant l'afflux, de nombreux États comme la Malaisie ont interdit l'importation de ces déchets. Mais des réseaux criminels organisent toujours des expéditions illégales et en bout de chaîne, ces amas toxiques finissent dans l'océan ou brûlés à ciel ouvert. Nous sommes de plus en plus un dépotoir des pays riches, a dénoncé une ONG environnementale de Kuala Lumpur. Devant le conteneur rempli de vieux serveurs informatiques saisis au port de Kelang, le ministre malaisien de l'Environnement a lui annoncé une hausse des amendes, x20 pour la plus élevée. Mais les différences de législation, le manque de moyens de contrôle et la corruption affaiblissent la lutte des pays du Sud contre le trafic international de déchets.
Lucille Gimbert du service environnement de RFI. Un petit mot de sport à présent avec du football, l'Euro 2024, qu'il n'y a pas de match aujourd'hui. La fin des phases de poule était hier, ne vous étonnez donc pas s'il n'y a pas de rencontre aujourd'hui. Place maintenant aux huitièmes de finale, elles vont commencer samedi après-midi. Du basket également avec la draft, le processus de recrutement des jeunes joueurs au NBA cette année qui a distingué les Français. Zachary Risacher a été sélectionné en première position à Atlanta. Alexandre Sarr, lui, a conquis la deuxième position à Washington, un doublé inédit dans l'histoire du basket français. En tout, ce sont 4 Français qui ont été recrutés par des équipes américaines. 22h10 ici à Paris, c'est la fin de ce journal, mais vous restez avec nous puisque c'est JCB, lauréate du prix RFI Découverte, que vous retrouvez avec avec la diffusion de son concert enregistré à Brazzaville. Bonne soirée sur RFI.